enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Le message que vous allez écouter vous est présenté par l'association chrétienne CIV, Centre d'évangélisation Esprit et Vie, dont la vision est d'apporter par l'Esprit de Dieu l'Évangile qui a franchi de toute servitude. Nous espérons qu'il transformera votre vie. Pour plus d'informations, veuillez nous contacter à l'adresse suivante. CIV Talence, 244 Avenue de Thouars, 33400 Talence. Téléphone 09 51 41 31 20 ou au 06 60 49 69 18. Email civ.talence@hotmail.fr. Merci et bon confort d'écoute. Que Dieu vous bénisse.
Le dimanche dernier, je vous ai communiqué la pensée du mois et qui sera quasiment effectivement la vision de cette année, parce que Dieu nous a mis sur le cœur de pouvoir emmener son peuple cette année dans une vision de conquête et d'implantation. Parce que Dieu nous a appelés pour que nous puissions dominer, que nous puissions régner sur la terre. Et il est donc important que le peuple de Dieu comprenne sa destinée sur la terre. Nous sommes amenés à régner. Et c'est pour cela que Dieu veut vraiment nous inculquer une vision de conquête et d'implantation. Il veut modifier nos perceptions et les amener à sa parole, aligner notre vision à la vision de Dieu pour nous sur la terre. Alors, nous sommes très conscients que nous, les uns les autres, nous vivons des moments difficiles dans la vie, mais le Seigneur nous dit que dans ce contexte, dans la terre dans laquelle il nous a placés, il est conscient de toutes ces réalités. Seulement, il a dit, je vous laisse dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Ça veut dire qu'en fait, étant dans ce monde, nous n'appartenons pas à ce monde, nous appartenons à un autre monde. Étant dans ce monde, nous appartenons à un autre royaume. Donc, il y a comme une cohabitation de deux royaumes. Nous sommes dans un royaume, mais nous sommes dans un royaume, dans un autre royaume. Et c'est une question de sphère. Étant dans ce monde, nous vivons dans une autre sphère. De telle sorte que là où il y a la crise, nous puissions être dans l'abondance. Là où il y a la famine, nous puissions manger. Là où il y a la tristesse, nous puissions être dans la joie, que nous ne puissions pas être influencés par notre environnement, mais que ce soit nous qui puissions influencer notre environnement. Alléluia. Et pour cela, il y a donc un texte que Dieu a inspiré. Alléluia. C'est le texte de Jérémie, chapitre 29, qui nous montre effectivement que le peuple de Dieu, à cette époque, était en captivité à Babylone. Et Babylone, on l'a comparé à ce monde. Et étant dans ce peuple, alors que Dieu les avait envoyés en captivité là-bas, à Babylone, et que le roi de Babylone était en train de leur assujettir à des durs travaux, à l'esclavage, et que leur désir le plus profond était de repartir en Israël, à Jérusalem, alors qu'ils attendaient quelque chose de la part de Dieu, espérant qu'en toute attente, la parole qui vient paraît contraire à leurs attentes. La parole qui vient au travers de la bouche du prophète Jérémie vient comme leur donner quelque chose de contraire à leur espérance. Mais pourtant, c'était là la voie de leur salut. Alléluia. Et nous disons, voici le contenu de la lettre que Jérémie, le prophète, envoya de Jérusalem au reste des anciens en captivité, aux sacrificateurs, aux prophètes et à tout le peuple que Nebuchadnezzar avait amené en captivité à Babylone. Après que le roi Jéconia, la reine des Eunuques, les chefs de Juda et de Jérusalem, les charpentiers et les serruriers furent sortis de Jérusalem, il l'a remis à Eliezer, fils de Shaphan, et à Gemaria, fils de Hilkacha, envoyé à Babylone par Sédécias, roi de Juda, auprès de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Elle était ainsi conçue, ainsi par l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone. Bâtissez des maisons. On a compris que le Seigneur voulait nous apprendre, vous savez, ce principe, à acquérir la mentalité des bâtisseurs. Alléluia. Et habitez-les. On en parlera tout à l'heure. Qu'est-ce que ça veut dire habiter l'air? Planter des jardins et manger dans les fruits. Ici, l'Éternel veut nous montrer le principe de l'entrepreneuriat. Prenez des femmes et engendrez des fils. Alléluia. Le principe de la procréation. Et donnez des maris à vos filles afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Le principe du transfert d'héritage. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez point. Le principe du règne et de la domination. Alléluia. Recherchez le bien de la ville où je vous ai amené en captivité. Alléluia. Et priez l'Éternel à son faveur parce que votre bonheur dépend du sien. Ici, l'Éternel nous montre l'importance de l'Église et son rôle dans une nation. OK? Et on a vu également que dans le principe du transfert d'héritage, il y a un autre principe qui est caché derrière. Il dit enfin que ses enfants également fassent des enfants. Ça veut dire qu'en fait, ici, le Seigneur nous montre l'importance de la famille au sein de l'Église. Alors, ce sont des thèmes sur lesquels on va beaucoup insister durant cette année pour montrer que vraiment Dieu veut notre bonheur et Dieu veut nous faire entrer dedans. Alors, un peuple qui est en captivité dans un pays, dans un royaume, voici le message que Dieu leur envoie. Dieu est conscient qu'ils ont des problèmes. Dieu est conscient qu'ils sont captifs, ils sont esclaves. Mais voici la parole que Dieu envoie à son peuple dans le pays de Babylone. Nous sommes dans Babylone. Babylone, c'est ce monde. Mais Dieu nous dit, dans ce monde, je suis conscient de ce que vous vivez, mais voici la parole que je vous adresse. Au-delà de vos inquiétudes, au-delà de vos problèmes, au-delà de vos difficultés, au-delà de la difficulté de la vie aujourd'hui, voici ce que je veux que vous puissiez avoir comme attitude, c'est que vous puissiez apprendre à acquérir la mentalité des bâtisseurs, que vous puissiez avoir une mentalité d'entrepreneuriat, que vous puissiez comprendre les principes de la procréation et vous multiplier, que vous puissiez donc porter du fruit, être productif, hein? Que vous puissiez comprendre l'importance de la famille et pouvoir effectivement vivre heureux en couple, en famille. Alléluia, c'est important. Comprendre le principe du transfert d'héritage et vivre cela pour votre progéniture. Alléluia. Le principe du règne et pouvoir dominer sur la terre et gouverner. Et comprendre que l'église n'est pas seulement un bâtiment où les gens se réunissent pour dire Alléluia, Amen, et lever les mains vers le ciel, chanter des cantiques. Mais l'église est une entité spirituelle, mais également aussi une entité qui doit avoir un impact dans la société pour participer à son tour et de sa manière, avec les principes, les valeurs de la Bible, de la parole de Dieu, au développement socio-économique et politique. Alléluia. Je vois dans la salle des grands hommes politiques, des présidents des nations. Alléluia. Je vois des gouverneurs, je vois des ministres. Tu devais dire Amen. Est-ce que tu es avec moi? Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Alléluia. Je vois ici des directeurs d'entreprise. Alléluia. Je vois des chefs d'État, je vois des ambassadeurs. Alléluia. Je vois des gens qui ont reçu de Dieu un appel dans le domaine politique, dans le domaine financier. Alléluia. Dans le domaine social. Il y en a parmi vous qui vont être embauchés par de hautes institutions internationales. Je vois certains être interprètes. Alléluia, dans des organismes comme l'ONU. Alléluia. Vous allez pouvoir parcourir le monde entier. Alléluia, parce que vous allez pouvoir être un ambassadeur de Christ dans les nations. Alléluia. Parce que le projet social qui est dans ton cœur, c'est Dieu qui te l'a mis. C'est un rêve qui vient de Dieu. Alors tu vas être recruté par l'ONU. Alléluia. Tu vas commencer à parcourir les nations pour aller aider les enfants abandonnés partout dans les pays. Alléluia. Dieu va te donner l'intelligence de bien apprendre l'anglais. Comme ça, quand tu vas parler anglais, tu seras interprète à l'ONU. Il y en a parmi vous qui vont travailler dans la Banque mondiale, dans les hautes institutions de Bretton Woods. Banque mondiale. Alléluia. Quoi encore? FMI, le Fonds monétaire international, ceux qui font des études en finance. Je déclare ces choses sur vos vies afin que Dieu vous propulse dans cette destinée. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Voici la mentalité des conquérants. Alléluia. Dieu veut vous donner les nations. Il a dit, demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage. Tu n'as rien demandé encore. Demande à Dieu les nations. Quand je suis arrivé ici, j'ai demandé à Dieu la France. Il m'a donné la France. Je sais que j'ai dit à la France. Mais je trouve que la France est trop petite. Parce qu'Abraham a fait une erreur. Il a levé les yeux, il a regardé, il a vu que Canaan. Moi, je vais voir au-delà. Alléluia. Je vais voir les nations du monde. Demande-moi, je te donnerai les nations. Les nations. Oh, les nations. Alléluia. Les nations. Merci pour les nations qui vont rentrer. Alléluia. Il n'y aura plus de place ici. Alléluia. Il n'y aura plus de place pour s'asseoir. On sera obligé de prendre tout le bâtiment d'acheter. Parce que c'est la mentalité des bâtisseurs. Alléluia. Nous allons accéder à la propriété. Alléluia.
Ce bâtiment sera trop petit, nous allons pouvoir conquérir toute Lens. Alléluia. On va avoir un complexe. Alléluia. Il y aura des bureaux partout. Alléluia. En fait, chaque fois qu'un département va se réunir, il va se réunir dans une salle à lui. Oh, alléluia. Hé, c'est fini cette affaire qu'on doit maintenant se disputer. On doit maintenant s'arranger pour avoir les horaires. Samedi, il y a les jeunes. Samedi, il y a la chorale. On fait comment? Et puis, il y a trop de réunions. Non, c'est fini. Le moment arrive où ça va être un complexe. Alléluia. Chaque département aura une salle de réunion. Alléluia. Oh, acclamons le Seigneur. Oh. Ça, c'est la mentalité de conquérants. Alléluia. Dieu veut que nous puissions nous lever au-dessus des réalités que nous voyons aujourd'hui et rentrer dans ce qui est invisible. Parce que, bien aimé, ce que nous sommes n'a pas encore été manifesté. Mais bientôt, dis à ton frère bientôt. Dis à ton frère, prends une photo avec moi. Je t'assure. Parce que ce que je suis n'a pas encore été manifesté. Mais quand ça va être manifesté, si tu ne prends pas la photo avec moi, tu vas le regretter. Parce que quand tu voudras me voir, il faudra prendre rendez-vous 3 semaines à l'avance. Parce que la journée sera tellement complète et saturée. Vous voyez, aujourd'hui, par exemple, vous voulez prendre un visa pour aller aux États-Unis, on vous dit qu'il faut prendre rendez-vous au moins 3 mois à l'avance. Ça va être comme ça pour moi. Amen. Oh, acclamons le Seigneur. Alléluia. Ça va être comme ça. C'est-à-dire que même les présidents des nations, ok, vont négocier avec moi. Alléluia. Tu le crois? Dis à ton frère, prends une photo avec moi. Parce que quand je serai élevé, je serai béni. Quand je vais te voir, si tu viens maintenant, je vais te dire c'est trop tard. Parce que toi là, tu es, on dirait que tu es quand même un petit peu, hein, tu as un amour par intérêt. Parce que quand j'étais apparemment rien, tu m'as pas, hein, t'as pas voulu prendre la photo avec moi, n'est-ce pas? Maintenant qu'aujourd'hui je suis quelqu'un, c'est là que tu vas venir faire. Non, c'est terminé, la grâce est passée. Alléluia! Amira, prends bien les photos avec moi là. Alléluia! Gloire à Dieu, acclamons le Seigneur. Il dit, bâtissez les maisons. On l'a vu hier, la mentalité des bâtisseurs, dimanche dernier. L'importance d'accéder à la propriété, c'est important. Je ne vais pas revenir là-dessus. Okay, l'importance de prendre le territoire que Dieu nous a donné. Alléluia, les nations. C'est important. Ceux qui ne sont pas encore français, si vous avez un appel pour ce pays, demandez à Dieu la nationalité, il va vous la donner. Parce que tu ne peux pas avoir un appel pour Dieu à le servir dans ce pays, et tu vas être dans une situation précaire. Chaque année, il faut renouveler le titre de séjour, puis après, il faut demander un temps de papier. Ça fait, c'est pas un peu trop tracassant, là. Vous voyez pas ça, c'est compliqué tout ça. Okay, on est tellement très occupé par les choses de Dieu, on n'a plus le temps pour ça. Nationalité claire et nette, Dieu te donne la nationalité, tu es tranquille, dans le repos, tu sers Dieu. Alléluia. Bon, c'est vrai que si tu n'es pas appelé par Dieu dans ce pays, il ne faut pas forcer aussi. OK? Parce que si la terre te refuse, bon, il ne faut pas aussi forcer. Il y a une autre terre ailleurs qui t'attend. Alléluia. Ne cherche pas à faire des trafics. Non, il ne faut pas faire ça. OK? Il dit, demande-moi et je te donnerai les nations. Quand tu demandes à Dieu, si c'est sa volonté, il te donne les nations. OK? Donc, il te donne la nationalité française. Comme ça, tu as des avantages. Tu peux facilement servir Dieu tranquillement. OK? C'est lui qui t'a amené ici. Alléluia. Quand il a amené Joseph en Égypte, n'est-ce pas? Il lui a donné la nationalité égyptienne. Il est devenu égyptien. OK? Il est devenu même gouverneur. En fait, moi, je ne l'appelle pas gouverneur. Parce que le roi d'Égypte a dit à Joseph que entre toi et moi, ce qui nous sépare, c'est seulement le trône. En fait, en réalité, Joseph régnait avec le roi. Donc, Joseph était un roi bis. Alléluia. Donc, il avait la nationalité égyptienne. Voyez-vous? OK? Donc, moi, ici, je vais régner avec sa cousine. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Mais oui, je suis un roi. Alléluia. Ça, c'est important. OK? Donc, quand vous avez cette mentalité-là, vous commencez à prendre les choses au sérieux. OK? Vous commencez à entreprendre vos démarches pour la société française. Vous commencez aussi à bien vous conduire en tant que bon citoyen français. OK? Arrêtez de brûler les feux rouges. OK? Parce que si vous brûlez le feu, c'est le feu qui va vous brûler en réalité. OK? Vous commencez à respecter les lois de ce pays. Alléluia. Arrêtez de faire les délits de fuite. OK? Alléluia. Mais oui, parce que tu ne peux pas être français et puis te comporter comme ça. Tu vas te trouver en prison. OK? Alléluia. Commencez à répondre aux lettres recommandées. Allez-y, chercher dans la poste. OK? Hein, commencez à traiter vos courriers. Quand le courrier arrive, il ne faut pas l'entasser, Peut-être j'ai oublié. Le ici a envoyé relance. Non. Commencez à traiter votre courrier. Tenez une administration dans votre maison. Achetez des classeurs. Allez-y dans Office, quoi là. OK? Achetez les classeurs. Commencez à ranger votre maison. OK? Voilà, les papiers sont rangés. La banque, classeur banque, classeur assurance. classeur CAF, hein, classeur bailleur, ok, agence immobilière. Donc tout est rangé là, ok, classeur des impôts. Tout est bien rangé. Comme ça, quand on dit tel papier, tu sais où aller chercher, tu sors. Je ne sais pas que maintenant tu... Non, c'est comme ça. Un bon citoyen. Alléluia. C'est comme ça que tu peux avancer. Comme ça, quand tu vas avoir des projets sérieux, ok, on va te demander, parce qu'ici, hein, il y a trop de papiers, n'est-ce pas? On demande trop de papiers. Donc, tu veux monter un crédit, par exemple, un dossier de crédit, un projet, etc. On te demande tel dossier, telle pièce à joindre. Ok? Facilement, tu vas, tu cherches, tu bookes ton dossier. Ok? En 3 jours, tu l'as déposé dans les délais. Et facilement, tu peux avoir la grâce de rentrer dans les choses auxquelles Dieu t'appelle. Alléluia! C'est ça la mentalité de conquête. La vision de conquête et l'implantation. Alléluia! Et quand tu as envie de te marier, tu as un projet de te marier, commence déjà aussi à t'arranger en tant que jeune homme. Ok? Parce que les jeunes filles aujourd'hui, bien aimées, les jeunes sœurs en Christ, aiment un certain profil d'homme. Okay? Donc, ils n'ont pas envie d'épouser quelqu'un qui est paresseux, qui ne travaille pas vraiment, qui dort beaucoup. La femme s'élève avant lui, il s'élève d'être 2 heures après. Okay? Non, les femmes cherchent des hommes travailleurs. Parce que l'un des besoins les plus importants de la femme, c'est la sécurité. Alléluia! Donc, si elle ne se sent pas en sécurité à côté de toi, bien-aimé, tu peux être beau, tu peux être élégant, tu peux être grand. En fait, elle regarde et dit, je veux un jeune cadre dynamique. Hein? Hein? Dis-toi la sœur. Hein? Il y a des sœurs qui me disent ça ici. Hein? Jeune cadre dynamique. OK? Donc, il faut toujours être vraiment souriant. On va voir ça tout à l'heure. C'est important. Bon, les jeunes sœurs aussi, c'est pareil. Hein? Quand tu veux te marier, il faut savoir que les frères aussi ont des critères. OK? Donc, ils aiment aussi des sœurs agréables. Hein, c'est pas tu arrives le matin, le visage est froissé, tu es... Non. OK? Il faut procurer la paix, il faut être heureuse. Bâtissez des maisons et habitez-les. Qu'est-ce que ça veut dire, habitez-les? Tu peux bâtir une maison, gloire à Dieu, mais encore faudrait-il que tu l'habites. Qu'est-ce que ça veut dire, habiter une maison? La Bible déclare que mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que d'habiter avec une femme querelleuse. Qu'est-ce que la Bible veut nous dire? La Bible dit, en fait, quand tu as bâti une maison, c'est bien. Mais ce qui est important, ce ne sont pas les 4 murs. Ce qui est important, c'est l'atmosphère qui règne dans cette maison. C'est ça qui va te rendre heureux ou pas. Donc, quand la Bible nous dit ici dans le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 5, que habitez-les, ça veut dire en fait, vivez heureux, vivez épanoui. Tu ne peux pas habiter une maison qui n'est pas agréable à vivre. Donc, si tu habites, c'est que tu es heureux de vivre dans cette maison-là. Alléluia. Je connaissais des collègues, quand je passais mon stage au Gabon, qui, en fait, ça fait 15 ans, 20 ans de boîte. Quand ils finissent le travail, tout de suite après, le soir, ils vont dans les bistrots, dans les boîtes de nuit. Ils vont boire, et le lendemain, quand vous arrivez au travail, ils commencent à raconter, « Ah, je suis rentré très tard hier, je suis rentré... » Et tous les jours, c'est comme ça. Et je leur ai posé la question, « Mais comment vous pouvez vivre comme ça? Ce n'est pas possible. » Qu'est-ce qui explique le fait que vous allez au travail, après le travail, tout de suite après, vous allez dans les bistrots. Et vous rentrez tard chez vous. Vous ne voyez même pas vos enfants, votre femme. Et qu'est-ce qu'ils me répondent? Ils me disent, en réalité, on se sent mieux dans les boîtes de nuit, dans les bistrots, que chez nous. Donc, pour fuir les querelles, pour fuir la mauvaise ambiance, qu'est-ce qu'ils font? Ils préfèrent aller boire. Parce que l'atmosphère n'est pas favorable. Aujourd'hui, le monde a besoin de bonheur, a besoin de joie, a besoin d'espérance. Et les gens sont obligés de faire beaucoup de choses pour trouver la joie de vivre. Mais la Bible déclare que lorsque nous bâtissons avec l'Éternel, la Bible déclare que si quelqu'un bâtit la maison, si l'Éternel l'a bâti, celui qui travaille, travaille en vain. Quand on a bâti notre maison, comme on l'a vu la semaine dernière avec l'Éternel, nous pouvons l'habiter. Pourquoi? Parce que la volonté de Dieu, c'est que nous puissions vivre heureux et épanouis. C'est donc le titre de mon message ce matin. Comment travailler à votre épanouissement personnel? Comment travailler à votre épanouissement personnel? Je vais vous partager 7 principes. Le premier principe, vous allez noter pour ceux qui prennent des notes. Pour travailler à mon épanouissement personnel, je dois apprendre à vivre libre. Je dois être libéré de toutes mes prisons intérieures. Premier principe, soyez libérés de toutes vos prisons intérieures. Parce que dans le livre de Galates, chapitre 5, verset 13, la Bible est claire. Galates, chapitre 5, verset 13, nous dit, « Frère, vous avez été appelés à la liberté. » Dis à ton frère, tu as été appelé à la liberté. Mais c'est une vocation. La Bible dit que l'une de nos vocations, c'est d'être libre. Et l'apôtre Paul nous demande de travailler à notre vocation. Donc, nous devons travailler pour être libre. Libre, pourquoi? Parce que nous vivons, pour la plupart, dans des prisons. Et les prisons les plus redoutables ne sont pas les prisons extérieures. Parce que quelqu'un peut être libre extérieurement, ne pas être en prison, mais quand même être malheureux. Et quelqu'un d'autre peut être en prison, la prison des hommes, mais être heureux. Donc la véritable liberté, c'est d'être libéré des prisons intérieures. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui, vous avez remarqué, quand vous montez dans un bus, dans un tram, dans un métro, dans un TGV, dans un avion, regardez comment les gens vivent, dans la rue, partout, dans votre environnement. Le monde est triste. Les gens ne sont pas heureux de vivre. La vie est morose. Ça ressemble à une routine. Ils font tous les jours la même chose. C'est boulot, maison, maison, boulot, après peut-être les courses de temps en temps, après la famille. Mais les gens ne sont pas heureux de vivre parce qu'ils sont dans un cercle vraiment routinier chaque jour. Il n'y a rien de nouveau pour eux qui puisse les motiver dans la vie. Il n'y a rien de nouveau. Et donc beaucoup de gens ne sont pas épanouis simplement parce qu'ils vivent dans des prisons émotionnelles, des prisons sentimentales, des prisons psychologiques. Des gens qui sont dans leur être intérieur affectés par beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments. Et ils pensent qu'en fait, ils sont obligés de vivre avec ça parce que telle personne ne leur a pas pardonné, telle personne ne leur a pas rendu service et telle personne a fait du mal à leur famille. Donc, ils sont comme obligés de vivre fixés et focalisés sur ces personnes comme si leur vie dépendait de ces personnes. Alors que la Bible déclare que si vous, le Fils de Dieu vous affranchit, vous êtes réellement libre. Et aujourd'hui, on se donne toutes les sciences du monde pour essayer d'étudier l'homme dans son être intérieur et apporter des solutions pour essayer de l'aider à être libéré de ses prisons intérieures. Mais malheureusement, la science a ses limites. La psychologie a ses limites. Au-delà de tous les cabinets psychiatriques qui existent ici en France et dans l'Europe, j'ai fait des recherches. Je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de psychologues, beaucoup de psychiatres, beaucoup de psy, pour être court. Mais au-delà de ça, voyez ce que j'ai découvert. C'est une enquête qui a été menée par l'Office parlementaire d'évaluation des politiques de la santé. Ça s'est passé en 2006. Et ces chiffres sont d'actualité aujourd'hui parce qu'en fait, de façon évolutive, la courbe montre que chaque année, au moins pendant un an, il y a une augmentation de 1 à 2% de ces chiffres-là. Donc, l'Office parlementaire d'évaluation des politiques de la santé ici en France nous révèle que la France est le premier pays consommateur des produits antidépresseurs. Écoutez ça. La France reste le plus grand consommateur de médicaments psychotropes en Europe. Un rapport récent de l'Office parlementaire d'évaluation des politiques de la santé retrace l'état des lieux de la consommation de ces médicaments en France. Il confirme la situation particulière de la France en disant ceci. La consommation de ces médicaments, notamment celle des anxiolytiques. Les anxiolytiques, c'est quoi? Ce sont en fait des formes des antidépresseurs qu'on donne aux personnes qui sont anxieuses. On leur prescrit ça, contre l'anxiété. Donc, ce sont en fait la catégorie d'antidépresseurs qui est le plus consommée. Et à côté de cette catégorie, on a une autre catégorie qu'on appelle les hyptoniques. Donc, les hyptoniques, ce sont en fait une autre catégorie d'antidépresseurs qu'on prescrit aux personnes qui sont tellement dépressives qu'on a même besoin de les mettre dans un profond sommeil et même qu'on prescrit aux personnes qui ont besoin d'être mis dans un profond coma artificiel. Et chaque année, l'État français dépense plus d'1 milliard d'euros Ça, c'est la dépense de l'État. Pour soigner ces personnes-là, via quoi? Via les prestations sociales, okay, la sécu, etc. Donc, quand on fait les calculs, en fait, la sécu dépense 1 milliard d'euros par mois qui sont débloqués, qui sont décaissés des caisses de l'État. C'est une grosse dépense pour l'État. Alors que cet argent aurait pu servir à l'entraide, okay, aux personnes démunies. Okay. Il y a tellement de personnes sans domicile fixe en France. Okay. Quand vous sortez d'ici, hein, même là, au Capucin, vous arrivez, il y a des personnes qui dorment là. À la gare, il y a des personnes qui dorment là, qui n'ont pas de logement. Or, 1 milliard, c'est suffisant pour construire des logements et pouvoir abriter des personnes comme celles-là, pouvoir les entretenir, leur donner à manger, etc. Mais ces 1 milliard vont où? Ça va dans les antidépresseurs. Et c'est la sécu qui paye ça. Moi, j'ai décidé de faire des économies à la sécu. J'ai ma carte de sécurité sociale depuis que je suis ici, je vous assure. La dernière fois, j'ai été obligé de chercher un médecin parce que ça fait près de 7 ans que je suis en France, je ne suis jamais tombé malade. Donc, je n'avais même pas de médecin traitant. Et comme c'est devenu une loi obligatoire, vous devez avoir un médecin traitant. Donc, il fallait que je trouve un médecin traitant. Même là encore, quand j'ai écouté les informations, je ne suis pas allé chercher un médecin traitant. Il a fallu que je m'attrape une grippe. On m'a dit, non, écoute, va quand même voir un médecin. Donc, j'ai cherché dans l'annuaire un médecin traitant. Je suis tombé sur, je dis, bon, d'accord, je t'ai choisi, allez. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Moi, j'ai choisi de faire des économies à l'État. Je n'utilise quasiment pas ma carte de sécurité sociale. Parce que la dépense de l'État est énorme de ce côté-là. Et comparativement aux autres pays européens, l'Allemagne, okay, le Royaume-Uni, le Pays-Bas, okay, la France est numéro 1 dans la consommation des produits antidépresseurs. Et l'enquête révèle que ce n'est pas seulement une affaire de papy et de mamie. C'est une affaire de tout âge. Parce que même si le nombre important, okay, le pourcentage le plus élevé des personnes qui consomment ces produits sont des personnes âgées, il n'en demeure pas moins que chaque année, une fille sur 4 se drogue. Un jeune garçon sur 5 se drogue. Il n'y a qu'à voir. Dans les banlieues aujourd'hui, ça devient un phénomène social. Les jeunes sont en quête d'identité. Parce que les jeunes grandissent dans un contexte compliqué. Ils voient les parents qui s'entre-déchirent, qui se disputent, des foyers qui se séparent, qui divorcent. Ils sont en perte d'orientation. Ils ont besoin d'un repère aujourd'hui, les jeunes. Et ils vivent avec ça dans leur cœur, des blessures que personne ne réalise. Et quand ils grandissent, ils ont besoin de quelque chose pour les remotiver dans la vie. Alors, ils vont se retrouver dans la drogue. Ils vont se retrouver dans la rue. Certains vont se retrouver à faire la prostitution. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne pour guérir l'état de leur âme. Alors, ils ont besoin d'être aimés. Surtout à l'âge de l'adolescence, l'enfant commence à dire, qui va m'aimer? Qui va m'aimer? À l'âge de 12 ans, on commence à chercher, qui va m'aimer? Qui va m'aimer? Le monde a besoin d'amour, le monde a besoin de messages d'espérance, le monde a besoin de messages de motivation, mais qui va le leur donner? Si ce n'est l'Église. Et voici l'état de la société aujourd'hui. Ce qui fait que les gens sont obligés de sombrer dans des produits antidépresseurs pour essayer de chercher le repos, le calme. Mais qu'est-ce que tu fais, mon frère, en tant que chrétien? Parce que Dieu t'a mandaté pour conquérir le monde et implanter le règne de Christ dans l'environnement où tu te trouves afin de pouvoir révéler une autre image de la vie que celle que les gens aujourd'hui connaissent. Alléluia. Toi, chrétien, tu es né de nouveau, tu devais être quelqu'un de libre, mais pourtant, tu continues encore à aller voir les psys. Et quand tu arrives au boulot, quand le collègue se plaint que voilà, j'ai mal dormi, mon frère est malade, etc., je ne vais pas bien, toi, tu dis, ah, vraiment, moi aussi, même j'ai appris que vraiment, ma grand-mère là-bas, ça ne va pas, j'ai appelé hier soir, mon père m'a dit que vraiment, il doit passer par opération, et vous êtes là en train de vous encourager avec vos problèmes. Plutôt descendre dans la fosse. Donc, nous devons comprendre que si nous voulons vivre heureux et épanouis, nous devons travailler à notre liberté. On doit être libéré. Et c'est une décision que je dois prendre d'être libéré de mes prisons intérieures. Qu'est-ce qui t'emprisonne dans tes émotions ce matin? Qu'est-ce qui t'emprisonne dans tes sentiments ce matin? Fais un état de lieu. Commence à regarder au-delà de toi et décide aujourd'hui de vivre heureux. Alléluia. C'est une décision. Il a dit, soyez joyeux. C'est un ordre. Il n'a pas dit, moi, je vous rendrai joyeux. Non, il dit, soyez joyeux, c'est toi, tu décides d'être joyeux. Tu prends une décision. Alléluia. Deuxième principe. Comment travailler à votre épanouissement personnel? Il faut vous fixer des objectifs dans la vie. Et être des hommes et des femmes de principe. La Bible déclare que nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Ok? Maintenant que nous sommes devenus chrétiens, l'Éternel a fait retomber sur Jésus l'iniquité de nous tous. On a été sauvés. On a connu le Seigneur Jésus. Nous sommes libérés de tout ça. Donc nous sommes des hommes et des femmes qui devons avoir des visions, des objectifs. Proverbe chapitre 29, verset 18. Proverbe 29, verset 18 nous dit ceci. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Donc Dieu, il nous révèle deux choses. Il nous révèle l'importance de la révélation, donc la vision et des objectifs dans la vie, et l'importance de la loi, donc des principes. Et Dieu veut un peuple qui a des objectifs, un peuple qui a des principes. Nombreux sont les personnes de Dieu qui marchent et qui vivent le jour au jour. Et donc, ils sont surpris de voir que leur vie tourne à rond. Mais c'est normal parce que tu ne vis pas, tu survis. Ok? Dieu t'amène à influencer ton environnement, toi tu subis ton environnement. Et tu vis le jour, tu ne sais pas ce que tu vas faire dans les mains, tu laisses le train de ce monde t'entraîner, t'amener là où il veut t'amener. Mais un homme qui veut vivre épanoui, qui veut vivre heureux, doit avoir des principes et doit se fixer des objectifs. Demain, je fais ça. Après demain, je fais ça. Si Dieu le veut, je ferai telle chose. Je dois planifier ma vie. Ma vie ne doit pas être quelque chose de fade, quelque chose vraiment de désordonné. Je dois être rangé dans ma vie. Et quand on discute avec la plupart des personnes aujourd'hui, tu poses la question, c'est quoi tes projets? Oh, je suis là, je ne sais pas, je remets tout entre les mains de l'Éternel. Ma destinée là, ça sur mais je ne sais pas. Mais la Bible déclare que l'homme forme dans son cœur des projets, mais le destin de l'Éternel s'accomplit. Ça veut dire qu'en fait, le destin de l'Éternel, oui, il va s'accomplir dans ta vie, mais quand même, forme dans ton cœur des projets. Avec le fait que tu as une destinée entre les mains de l'Éternel ne t'empêche pas de te former des projets. Et un homme qui vit sans projet, c'est un homme qui ne sait pas où il va. Si je te pose la question aujourd'hui, qu'est-ce que tu feras dans un an, dans deux ans, dans trois ans? Qu'est-ce que tu vas me dire? Tu ne sais pas quand est-ce que tu comptes te marier. Tu ne sais pas. Tu es là, tu dis, bon, je ne sais pas trop, mais... Enfin, à un moment donné, je voulais me marier à 25 ans, mais je me suis rendu compte quand même qu'il n'y a plus pas des gens qui se marient à 25 ans. Bon, j'attends, je vais voir. Mais si tu attends, tu vas subir la vie. Parce que le diable va t'envoyer quelqu'un. Au moins, tu ne t'attends pas. Et te voilà, coup de foudre. On dit coup de foudre. Pourquoi on parle de coup de foudre? Mais le coup de foudre n'attrape que ceux qui n'ont pas d'objectif dans la vie. Mais oui. Parce que coup de foudre, ça veut dire que tu ne t'attendais pas. Et ça arrivait comme ça. Coup de foudre. Oh. Alléluia. Mais si tu es un homme de principe, un homme d'objectif, tu sais qu'il arrive là, tu dis, non, c'est pas le genre que j'avais vraiment voulu. Non, j'attends encore. Tu as des objectifs clairs dans la vie. Ok? Quand tu finis tes études, qu'est-ce que tu comptes faire? Pose-toi des questions. Je veux devenir ingénieur, je veux devenir directeur d'entreprise. D'accord, en fonction de tes objectifs, tu te donnes les moyens, ok, intellectuels, matériels et parfois financiers, de les accomplir. Et au travers des objectifs que tu as, tu retrouves en toi des ressources et la force pour prier. Parce que si tu n'as pas d'objectif, tu ne peux pas prier. Qu'est-ce qui me motive à prier chaque jour? Parce que je sais que dans un an, je dois faire telle chose. Dans deux ans, je dois faire telle chose. Donc, ça fait partie de mes sujets de prière. Voilà pourquoi je peux me lever le matin avec rage, avec force, pour prier. Parce que j'ai un but à atteindre dans la vie, j'ai des objectifs. Et c'est là aussi le fort du ministère prophétique. Et de l'importance de vivre dans la dimension prophétique. Parce que chaque fois, je reçois des paroles qui m'encouragent à aller dans le sens de ce que Dieu a mis sur mon cœur. Donc ça me motive, ça m'encourage. Mais au départ, j'ai des objectifs à atteindre. Sur le plan scolaire, il faut avoir des objectifs. Sur le plan social, il faut avoir des objectifs. Familial, il faut avoir des objectifs. Au niveau du mariage, fixe-toi des objectifs. Au niveau professionnel, fixe-toi des objectifs. Tu as une entreprise, fixe-toi des objectifs. Au bout de 3 ans, 4 à 5 ans, il faut que mon entreprise devienne une multinationale, par exemple. Donc, je dois travailler intellectuellement, matériellement, financièrement, humainement, administrativement parlant, je dois chercher tous les moyens possibles pour que mon entreprise rentre dans la dimension multinationale. Si je n'ai pas d'objectif, je ne peux pas atteindre ça. Si je n'ai pas de principe non plus, je vais être comme un train qui m'entraîne partout. Voilà pourquoi on parle de règlement. Parce que le règlement, c'est quoi? C'est des gens qui n'ont pas de principe. Si tu as des principes moraux, des principes de bonne vie, tu ne peux pas te laisser entraîner dans le péché. Mais si tu laisses entraîner le péché par le train de ce monde, c'est parce qu'en fait, tu n'as pas de vision, tu n'as pas d'objectif. Quel genre d'homme veux-tu être? Quel genre d'homme, de jeune homme veux-tu être? À partir du moment où tu te poses cette question, tu peux quand même trouver les objectifs à atteindre pour devenir celui que tu veux que tu sois. Quel genre de jeune fille veux-tu être? Quand tu as répondu à cette question, tu peux maintenant toi-même travailler, vous savez, la parole de Dieu, en lisant la Bible, tu vas trouver les versets qui vont dans le sens de ce que toi tu veux être et ça va t'encourager. Et tu vas trouver une ressource spirituelle sur laquelle tu vas t'appuyer pour prier afin de devenir la personne que tu veux être avec Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu as des visions, tu as des objectifs et tu as des principes. Parce que tu as des principes de vie, ta vie est équilibrée, tu ne te laisses pas emporter, baloter partout dans la doctrine, tu sais ce que tu veux dans la vie. Parce que tu as des principes, tu ne laisses pas tes pensées aller n'importe où. Parce que la Bible déclare que tel l'homme est dans ses pensées, tel il l'est, sur le plan réel. Nous sommes, visiblement, le reflet de notre état intérieur. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Lisons un proverbe. Proverbe chapitre 23, verset 7. Proverbe 23, verset 7 déclare, « Car il est tel que sont les pensées de son âme. Car il est tel que sont les pensées de son âme. » Donc, je suis aujourd'hui le résultat de l'état de mes pensées. Alléluia. Fixe-toi des objectifs, mon bien-aimé. Établis-toi des principes dans la vie. Troisième principe pour travailler à notre épanouissement personnel, pour habiter nos maisons, alléluia, soyez en paix avec tous et travaillez au bien-être des autres. Soyez en paix avec tous dans votre environnement et travaillez au bien-être des autres. Bien-aimé, Matthieu chapitre 5, verset 9. Matthieu chapitre 5, verset 9 nous dit ceci. Heureux ceux qui procurent la paix. Heureux ceux qui procurent la paix. Ça veut dire qu'en fait, quand tu procures la paix, le bonheur vient. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas besoin d'une révélation particulière du Saint-Esprit. En lisant simplement le verset, tu comprends tout de suite que mon épanouissement personnel, mon bonheur, ça vient d'où? Ça vient du fait que dans la vie de chaque jour, je procure la paix autour de moi. Je ne suis pas un instrument de querelle et de dispute. Je ne suis pas un instrument de calomnie. Je ne cherche pas la division. Je ne cherche pas les problèmes. Mais je procure la paix autour de moi. Alléluia. Et quand je procure la paix autour de moi, la Bible déclare que je serai heureux. En d'autres termes, je serai épanoui. Mais pourquoi chercher ailleurs? Pourquoi je vais aller prendre des produits antidépresseurs pour être épanoui? Tu peux chercher tous ces produits, mais si tu n'as pas appliqué le principe qui dit « cherche la paix autour de toi », tu seras jamais heureux. Parce que les gens avec qui tu cherches les problèmes, les gens à qui tu cherches les ennuis, ces mêmes personnes, ce sont ces personnes-là qui vont te créer des problèmes, qui vont te rendre la vie difficile. Quelqu'un te prête de l'argent, tu ne rembourses pas. Ok? Tu le balades, il téléphone, c'est sur répondeur, des fois c'est l'enfant qui répond, papa il dort. Des fois, il tue la femme, répond, dit que moi, je ne suis pas là. Alors, il vient de sortir, il a oublié son portable. Mais tu cherches les problèmes avec ton environnement. Sois en paix. Et quand tu aperçois la personne en route, tu l'aperçois comme ça. On appelle ça la tangente. Tu prends la tangente. Tu n'es pas en paix. Donc, si tu n'es pas en paix avec ton environnement, tu n'es pas en paix avec toi-même. Et si tu n'es pas en paix avec les autres, parce que bon, voilà, tu ne t'entendais pas avec la personne, parce qu'il y a eu des problèmes dans la famille, ou bien telle personne t'a rendu tel. T'a causé tel problème il y a tant d'années, quand tu croises la personne en route, tu ne peux même pas la regarder, tu passes un côté, elle passe un côté, tu n'es pas en paix avec ton environnement. Si tu n'es pas en harmonie avec ton environnement, tu auras du mal à être en harmonie avec toi-même. La Bible déclare que tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu, que tu ne vois pas, que tu n'aimes pas ton prochain que tu vois. C'est très important, bien-aimé. Recherchons la paix avec tous et la sanctification. Et il dit, si nous procurons la paix, nous serons appelés fils de Dieu. Sachez une chose, c'est que nous ne naissons pas fils. Nous naissons enfants. Alléluia. L'enfant est né. Et nous tous, on est nés d'un père et d'une mère. Vous comprenez? Mais ce n'est pas tout le monde qui est fils. Parce que si l'enfant est né, le fils nous est donné. Alléluia. Le fils nous est donné. Et qu'il donne d'être fils de Dieu. C'est Dieu qui confère ce statut. À partir du moment où on a commencé à grandir dans ses principes, il confère le statut de fils. Et quand on est fils, on est héritier. Alléluia. On peut hériter maintenant des bénédictions, des promesses que Dieu a faites. Et dit, recherchez la paix, procurez la paix. Heureux ceux qui procurent la paix, eux là, ils seront appelés fils de Dieu. Donc ils auront part à l'héritage des saints. Ils auront part au bonheur, ils auront part à la joie. Recherchez le bien des autres, le bien-être des autres. Beaucoup de personnes aujourd'hui, nous vivons pour nous-mêmes. Et nous voulons être épanouis. Nous ne faisons du bien qu'à nous-mêmes. Je n'arrive pas, franchement, j'ai du mal, même si j'ai des moyens, j'ai du mal à me faire plaisir quand je sais qu'à côté de moi, il y a quelqu'un qui est malade, qui souffre. Parce que la souffrance de l'autre va forcément m'affecter. Donc, si je veux être heureux, je dois lui rendre heureux. Et même les gens qui se marient, pourquoi les gens disent que je ne suis pas heureux de vivre avec tel homme, je ne suis pas heureux de vivre avec telle femme? Mais parce qu'en fait, eux, quand ils se marient, ils viennent dans le couple pour être heureux. Alors que la Bible déclare qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc plus tu donnes du bonheur, plus tu es heureux. En fait, il ne faut pas aller dans une relation avec quelqu'un dans le but d'être heureux. Il faut aller dans le but de rendre heureux. À partir de ce moment, tu dois reconsidérer tes voies et apprendre à bâtir un autre type de relation avec les gens. Et à partir de ce moment, tu dois chercher à procurer le bonheur aux autres. Je donne le bonheur. Je récolte ce que je sème. Si je donne le bonheur, je reçois le bonheur. Dans le monde, il y a un principe qui dit, en fait, je reçois ce que j'envoie. Si j'envoie l'agressivité, je reçois l'agressivité. OK? Franck, viens. Je vais vous montrer un exemple. Viens, Franck. Alléluia. Bonjour, Franck. Ça va bien? Tu es beau ce matin. Vous avez vu, non? Tu es beau ce matin. Alors, il était assis là, je le voyais, il était comme ça. Dès que j'ai dit qu'il est beau, il fait. Et comme il sourit, moi aussi, je suis obligé de sourire. Alléluia! Regardez ça. Vous avez vu, non? Oh, qu'est-ce qu'il me fait là? Tout de suite, réaction, il veut se défendre. Alléluia! Parce que j'ai voulu avouer la violence, tout de suite aussi, il se défend. C'est ça la vie. Acclamons le Seigneur. C'est ça la vie. C'est ça la vie. Maman vient. Vous allez voir. Maman Marie. Maman Marie, tu es belle. Genre, elle attendait. C'est ça, le monde attend, ok, d'être reconnu. Procurer le bonheur, c'est quoi? C'est reconnaître ce que les autres sont. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui a écrit en disant que, je crois que c'est Gary Chapman, okay? Un écrivain, un chrétien, conseiller, il est conseiller conjugal. Il dit qu'en fait, chaque conjugal, le temps pour moi, merci. Il est conseiller conjugal. Et il dit que chaque être humain a en lui ce qu'il appelait un réservoir émotionnel. Et c'est vrai, nous tous, on a un réservoir émotionnel. Donc, chaque jour, notre niveau de motivation d'épanouissement va dépendre de quoi? De ce qu'on met dans notre réservoir émotionnel. Et il parle de quatre langages dans notre relation les uns avec les autres. Il y en a qui comprennent mieux le langage de la reconnaissance. Quand ils font quelque chose, reconnaissez qu'il a bien fait. Et quand vous dites ça, en fait, son réservoir émotionnel est rempli et il devient productif, il est motivé et il devient performant dans ce qu'il fait. Ces mêmes principes sont enseignés dans les entreprises aujourd'hui pour booster, pour challenger les gens. La reconnaissance. Ce qui est mauvais, c'est de rechercher la reconnaissance, d'être avide de la reconnaissance, au point que si on ne te la donne pas, tu fais des dégâts, tu fais un problème, et tu commences à dire, voilà, c'est... Non, tu commences à faire des crimes. Non. Ça, c'est pas bon. Mais quand tu restes être humain normal, c'est tout à fait normal et légitime que tu aies besoin de reconnaissance. Et donc, une reconnaissance venue de quelque part sera toujours pour toi la bienvenue et va remplir ton réservoir émotionnel si toi, tu es beaucoup plus porté vers un langage de reconnaissance. C'est pour ça que dans l'Église, apprenez à reconnaître ce que sont les uns les autres, à vous complimenter. Alléluia. Ma chérie, tu es vraiment belle. Ce matin-là, vraiment, je t'assure. J'ai failli arriver en retard. Vraiment, j'ai failli arriver en retard. Quand je t'ai regardé, oh, vous voyez comment elle rit là? Le réservoir émotionnel est en train de... Là, elle n'a pas besoin de jeûner et prier pour être remplie du Saint-Esprit. Elle a déjà reçu la plénitude là. Oh, acclamons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Apprenez le temps d'apprécier l'autre. Apprenez le temps d'apprécier votre conjoint, votre conjointe, votre enfant. Apprenez le temps de les apprécier. Apprenez le temps d'apprécier ce que Dieu vous a donné. Maman, tu es belle. Est-ce que tu as dit à ta mère aujourd'hui que tu étais belle? Il faut le dire en rentrant à la maison. Tu es la plus belle femme, vraiment la plus belle des mamans. Elle va dire, ah, qu'est-ce qu'elle a mangé aujourd'hui, ma fille? Les parents ont besoin d'entendre ça. Alléluia. Papa, vraiment, tu es l'homme le plus fort du monde. Tu es un champion. Pour mon fils, je suis le champion du monde. Son papa est le plus fort. Et moi, chaque jour, je dis que tu es un champion. Alléluia. Et un jour, j'ai joué à un jeu d'ordinateur avec lui. Et puis, quand il a gagné, première manche, on lui a dit, tu es vice-champion. J'ai dit, tu as vu, tu es vice-champion. Maintenant, tu vas devenir champion. Vas-y, continue. Il a encore joué. Allez, tu es champion. J'ai dit, mais voilà, papa avait raison, tu es champion. Même l'ordinateur t'a dit que tu es champion. Acclamons le Seigneur. Oui. Et là, il est obligé de croire parce que même l'ordinateur lui-même, il a vu. L'ordinateur a dit que tu es champion. Il est content. Il comprend le langage de la reconnaissance. Il y en a qui vont comprendre le langage, ok, des compliments. Ça fait partie du langage de la reconnaissance. Donc, dans chaque langage, il y a des dialectes aussi, ok. Les compliments, tu es belle, vraiment, tu es bien habillée. Il faut dire ça aux frères, ok, les soeurs. Il faut dire ça aux frères de l'église, ok, avec des saintes pensées, ok. Et le frère aussi dit aussi à l'église avec des saintes pensées, des saints compliments. C'est important. Okay? S'il est bien habillé, dit que frère, vraiment, tu inspires le dynamisme ce matin, tu es bien motivé, c'est bien. Vous allez voir comment même à la sécurité, elle va être. Oulala. Si vous dites ça, Arcelin, là, le pasteur, la sécurité est vraiment assurée, là. Je l'ai dit ça en rentrant, j'ai dit, mon frère, vraiment, tu es beau, frère. Merci. Alléluia. Après, j'ai dit que vraiment, c'est beau ça. Vraiment. Comme c'est lui, il paraît qu'il était. Le... C'est beau ça. Il dit, oh, c'est pas moi, il faut dire merci au pasteur Nina. Mais en fait, il voulait aussi. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Et ça fait du bien. Ça crée une bonne ambiance dans l'église. Pourquoi les gens peuvent rester à l'église? Il y en a qui ne restent pas. Pourquoi? Parce que si l'atmosphère n'est pas. Hein? Même s'il y a une bonne parole, une bonne louange, quand ils ont fini par chez eux. L'atmosphère familiale, l'ambiance, l'environnement, bien-aimé, travaillons en cela, ok? Valorisons-nous les uns les autres, reconnaissons les uns les autres, soumettons-nous les uns aux autres. C'est important, bien-aimé. Il y en a qui vont comprendre le langage des services rendus. Les services rendus, ok? Moi, il y a des moments, je rentre un peu plus tôt que ma femme, les quelques rares fois, je rentre plus tôt que ma femme, et elle est partie chercher Jora, ok? Si, ou bien elle était à une réunion, si c'était son tour de faire la vaisselle, quand je rentre, ce que je vous dis, je le vis. Hein. Ceux qui viennent à la maison, ils voient. Je fais la vaisselle. Je fais la vaisselle, je nettoie, je fais tout. Je vous assure. Maintenant, bon, je prépare un peu aussi. Hein. Mais je vais encore bien apprendre à préparer. Mais tout le reste, je fais. La chambre, j'arrange, tout. Donc, quand elle rentre, la réunion. Quand tu es comme ça, la vaisselle est faite, tout est prêt. Et oh, merci. Merci, Témi. Merci, Témi. Moi, je dis, oh, de rien. Pourquoi elle me dit merci? Parce que service rendu. Je peux être sûr
que je vais bien dormir.
Alléluia! Je vais bien dormir. Attends, vous croyez que quoi? Quand le pasteur Sosté vient ici, le prophète, il commence à prêcher fort, fort, lui donner les grandes révélations, prophétie, vous voyez qu'il y a une onction qui parle comme ça? Oh. Alléluia! Il n'y a pas que onction. Il n'y a pas que prière, il n'y a pas que jeûne. Quand j'ai bien dormi, je peux vous livrer un message comme ce matin. Alléluia! Mais je dors toujours, tous les jours bien. Alléluia! Les services sont rendus, bien-aimés. Les cadeaux, de temps en temps, un petit cadeau. Quand vous faites du bien à votre environnement, ça vous revient, bien-aimés, vous êtes heureux. Il vous renvoie le même bonheur. Vous êtes épanouis. Invitez-vous un peu les uns les autres, même au restaurant, bien-aimés. Ok? Faites-vous plaisir les uns aux autres. Procurez la paix autour de vous et recherchez le bien-être des autres. Vous serez heureux. Alléluia.
Gloire à Dieu.
Quatrième principe, apprenez à vous aimer vous-même. Apprenez à vous aimer vous-même. Et faites-vous plaisir dans la vie. Matthieu 19, 19 déclare, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça veut dire que tu ne peux pas aimer ton prochain si tu ne t'aimes pas toi-même. Alléluia. Alléluia. Donc tu ne peux donner à l'autre qu'un amour que toi-même tu vis. Et David a pu se créer devant un miroir. Il a dit, je te loue, Éternel, je te bénis de ce que je suis une créature si merveilleuse et mon âme le reconnaît. Mais si tu ne reconnais pas comment Dieu t'a créé, tu ne reconnais pas ce que tu es en Christ, tu ne reconnais pas ta valeur, tu ne seras pas heureux. Tu as tendance à te comparer aux autres. Tu vas être en crise d'identité. Les jeunes aujourd'hui sont en crise d'identité. Pourquoi? Parce qu'ils veulent se comparer ou bien se repérer par rapport à une star, par rapport à une star de cinéma, une star de musique, ok? Ou encore de sport, ok? Tout le monde veut devenir Ronaldo. La plupart des jeunes maintenant se comparent à Thierry Henry ou encore à qui? Bon, Zidane, oui, d'accord, Zidane, mais il a toujours le succès, c'est vrai, il a toujours le succès. Mais il n'est plus là. On va parler de ceux qui sont encore. Alléluia. Donc tout le monde veut. J'ai vu, et un frère en Christ, je ne vais pas citer son nom. Quand je lis son mail, dès que ça s'affiche comme ça, je sais que c'est lui. C'est écrit Jordan, point, quelque chose. Je n'ai pas ce qu'il en est quelqu'un. Alléluia. Jordan. Je dis, le frère est un nom caché ou quoi? Jordan. Il y a quoi encore? Il y a Cox. Hein? Ou bien, il y en a, vous entendez d'autres, ça c'est maintenant du côté de sœurs en Christ. Ok? C'est Bella Orly Ted. Ça c'est un mail, mais c'est trop. Un jour, ma femme reçoit un mail, le mail d'une sœur de la chorale. C'était quoi encore? Délicieuse belle. Je vous en prie. Pourquoi? Parce qu'on veut s'identifier. On cherche une identité dans la vie. Et c'est vrai que c'est un besoin. Okay? Mais si tu ne sais pas qui tu es, comment Dieu t'a créé, qui tu dois être, tu es en crise d'identité. Et si tu es en crise d'identité, le diable va te dire ce que tu n'es pas. Et les hommes autour de toi vont te dire ce que tu n'es pas. Pourquoi Jésus à chaque fois faisait taire les démons? Tu es le Fils de Dieu. C'était pour dire, ce n'est pas à vous de me dire qui je suis. C'est à mon Père de me le dire. Et Jésus sur la terre n'a pas laissé quelqu'un parler sur lui si ce n'est son Père. Quand les démons ont voulu parler sur sa vie pour lui dire qui il était, il les a fait taire. Un jour, il pose la question à ses disciples. Vous pensez que moi je suis qui? Personne n'a pu répondre. C'est le Père qui a répondu au travers de Pierre. Et durant toute la vie de Jésus sur la terre, il n'a laissé que le Père parler sur sa vie. Tu es mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le, suivez-le. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Il a dit, sur cette révélation, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne feront rien contre elle. Sur quelle parole as-tu bâti ta vie? Dis-moi sur quoi tu as bâti ta vie et je te dirai pourquoi tu n'es pas épanoui. Parce que tu as bâti ta vie sur ce que le pasteur pense de toi. Alors quand le pasteur va un jour se fâcher avec toi ou bien te reprendre, tu seras triste. Tu vas rentrer triste parce que tu n'as plus la reconnaissance du pasteur. Si tu as bâti ta vie sur ce que les autres pensent de toi, eh bien quand les gens vont te dire ce que tu n'es pas, tu vas avoir dans ta tête l'opinion des gens sur toi. Tu vas être triste. Tu vas être malheureux parce qu'on a dit telle chose de toi, telle chose de toi, telle chose de toi. Et tu vis en fonction de ce que les gens disent de toi. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Les gens pensent quoi de moi? Il paraît que tu es Belzébul. Tu chasses des mots avec Belzébul. Tu es Jean-Baptiste qui est revenu. Tu es Élie qui est revenu. Mais maintenant, vous pensez quoi de moi? Personne n'a pu rien dire. Mais Dieu a parlé au travers de Pierre. Il a dit que tu es le Christ, le Fils de Dieu. Il a dit voilà. C'est ça que je voulais entendre. Et sur cette pierre, cette révélation, cette parole, je vais fonder mon église. Je vais fonder ma vie. Et il n'y a rien qui pourra m'ébranler. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que tu entends autour de toi? Ne laisse pas n'importe qui te dire des choses. Laisse Dieu te parler. Et sache discerner au travers des paroles des gens, les paroles qui viennent de Dieu et de celles qui ne viennent pas de Dieu. Et bâtis ta vie sur les paroles qui viennent de Dieu. Alléluia. Apprenez à vivre heureux. Apprenez à vous aimer vous-même. Appréciez-vous. Faites-vous plaisir dans la vie. Ok? Il y a des chrétiens, depuis qu'ils sont devenus chrétiens, ils n'ont même plus de loisirs. Ils n'ont plus de loisirs. Tous les jours, c'est prière, église, travail, maison, etc. Ils ne savent même plus aller au cinéma. Faites-vous plaisir, bien-aimés. De temps en temps, une petite partie de ciné, alléluia, ça aère un peu, ça fait du bien. De temps en temps, si tu t'es vraiment, tu aimes les romans, que des belles histoires, etc., tu lis beaucoup la Bible, pose un peu la Bible aujourd'hui, aère-toi l'esprit, lis une bonne histoire, instructive, ça fait du bien. Il y en a qui te disent, oh, pasteur, donc on a le droit. Oh, ah bon? Faites-vous plaisir. Offrez-vous des voyages. Allez-y au Saint-Tropez, à Biarritz. Bon, attendez l'été quand même. Hein. Attendez l'été quand même. Alléluia. Ou encore à Cachan. Faites-vous plaisir. Allez-y sur les montagnes. Bientôt la neige. Alléluia. Allez-y skier. Faites-vous plaisir. Alléluia. Faites-vous plaisir. Ok? Faites-vous plaisir. Ok, ça va, je vais continuer avec celui-là, c'est bon. Ok, ça va, c'est bon. Faites-vous plaisir. Ok? Que vous soyez en couple ou pas, mieux encore le couple, faites-vous des voyages, des fois, laissez un peu tomber les activités quotidiennes, faites-vous plaisir. Ok? Moi, je vous assure, hein, je vous dis, hein, moi, il y a des moments, il ne faut pas suivre. Je suis là à fond dans l'église, mais il y a des moments, je dis, bon, écoutez, aujourd'hui, là, allez. Ma chérie, je te fais une surprise, j'ai réservé une chambre d'hôtel quelque part, on fait garder Jora. Ah bon? Oui, on s'en va. Tranquille. Passe tout le week-end là-bas. Alléluia. Et c'est là que vraiment on parle de vraies choses. Alléluia. Parce que dans le bruit là, on n'est pas très concentré parfois. Alléluia. De temps en temps, faites-vous plaisir, bien-aimé. Ok? Tu travailles, tu gagnes de l'argent. Même si tu es étudiant, le peu d'argent que tu gagnes, faites-toi. Bon, maintenant, il ne faut pas aussi être adepte des prêt-à-porter, etc. aussi, hein, des magasins. De temps en temps, une belle petite tenue, un nouveau costume, deux fois par mois. Trois fois par mois, ça fait plaisir, n'est-ce pas? Ça change un peu de look, n'est-ce pas? Il y en a qui disent, mais pasteur, qu'est-ce qu'il a? Mais le pasteur aujourd'hui, vraiment, hein? Oh, acclamons le Seigneur, alléluia! Trouvez-vous des activités, ayez des loisirs, ok? Voyagez, allez au cinéma, au resto, hein? Faites-vous des amis, c'est important, faites-vous des amis. Et des gens qui viennent à l'église, ils sont seuls. Faites-vous des amis. Et puis après, tu es là, vraiment, je me sens seul, je suis triste. Mais tu vis dans la solitude, tu n'as pas d'amis. Les relations sont importantes. Les relations sont très importantes. Faites-vous des amis. Et comme tu es seul, tu n'as pas d'amis dans l'église, dans la communauté. Alors, après l'église, tu es chez toi, donc tu te sens seul. Ta vie devient monotone. Prière, lecture de la Bible, etc. Et puis ça s'arrête là. Mais tu sens qu'il y a quelque chose, tu as besoin d'autre chose. Il manque quelque chose. Oui, il manque quelque chose. Il manque une relation amicale.
Fais-toi des amis. Avec qui tu peux partager des bonnes choses. Alléluia. Fais-toi des amis. Sors de ta solitude. Parce que si tu ne te fais pas des amis, tu vas chercher à être ami du pasteur. Et comme le pasteur ne peut pas être ami à tout le monde, alors tu vas dire que ah, cette église-là, il n'y a pas l'amour. Bien aimé, j'aime tout le monde, mais je ne peux pas être ami à tout le monde. J'aimerais bien vous visiter tous. Si tu es un ami, tu ne te sentiras pas seul. C'est que le pasteur aurait pu te dire, lui va te le dire. Dieu va l'utiliser pour t'édifier. Et toi, Dieu va t'utiliser pour l'édifier également. Faites-vous des amis dans l'église. Construisez des bonnes relations. Et quand il y a des petits conflits, apprenez à bien les régler. C'est important. Sachez gérer vos relations aussi. Alléluia. Sachez les conserver, les garder. Rapidement, 5. Apprenez à bien vivre dans les temps d'épreuve. Pour être épanoui. Jacques chapitre 1, verset 2. Jacques chapitre 1, verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. En fait, Jacques nous dit ici simplement que faut dire gloire à Dieu quand il y a l'épreuve. Parce que l'épreuve produit la preuve. Alléluia. L'épreuve est un test qui veut me montrer effectivement que je suis arrivé à un certain niveau et je dois prouver au monde et à Dieu que je suis vraiment arrivé à ce niveau. Donc je dois réussir mon test. Je dois apprendre à bien vivre le temps d'épreuve. Parce que quand j'ai bien vécu le temps d'épreuve, l'épreuve me qualifie à un niveau supérieur. Donc je grandis avec Dieu, je grandis dans ma maturité personnelle, dans mon caractère. C'est très important. Je ne vais pas revenir là-dessus, on a fait tellement de messages là-dessus, alléluia. Et quand on a vaincu, on a fait des exploits, bien aimés, on devient des héros. Parce que la Bible déclare que pour ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, ils agiront avec fermeté et ils feront des exploits. Avant dernier point, aimer la parole de Dieu. Aimer la parole de Dieu. Le psaume chapitre 119, verset 165. Il y a beaucoup de paix. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi. Et il ne leur arrive aucun malheur. Psaume chapitre 119, verset 165. Donc pour ceux qui aiment la parole de Dieu, Dieu leur accorde beaucoup de paix et de bonheur. Le contraire de malheur, c'est bonheur. Donc Dieu leur accorde beaucoup de paix et de bonheur. Or le bonheur, c'est l'épanouissement. Que ce livre de la loi ne se lève point à ta bouche, médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras, que tu auras du succès, que tu seras épanoui. Josué 1:8. Et le psaume chapitre 1 nous dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas dans la voie des pécheurs, qui ne trouve pas son plaisir accompagné des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la parole de Dieu, qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. C'est ça l'épanouissement. Dernier point. Affectionner la présence de Dieu. Oh, j'aime ta présence, Seigneur. C'était beau ce matin. C'est encore très beau. Je sens ta présence. Chaque jour, David a dit, je me rassasie de ton image. J'aime ta présence, Seigneur. Un jour dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs. Le psaume chapitre 26, verset 8. Psaume 26, verset 8. Éternel, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. J'aime ta présence. Le psaume 84, verset 10. Dans cette Bible, c'est verset 11. Mieux vaut un jour dans tes parvis que mille ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de ta maison, de la maison de mon Dieu, plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Affectionnez la présence de Dieu. Soyez des hommes et des femmes de prière. Venez à l'église. C'est le lieu de sa gloire, de sa demeure. Aimez la maison de l'Éternel. Aimez sa présence. Et vous vivrez heureux et vous serez épanouis.
Enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu sans compromis.
Toute la parole de Dieu sans compromis.